Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Je suis plus malheureux que je ne l'ai cru. Et je suis le plus malheureux de tous les hommes. Vous êtes ma femme, je vous aime comme ma maîtresse, et je vous envoie aimer un autre.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, la scène est encore dans les mémoires. Un jour de février 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, souhaitant dénoncer devant une assemblée de fonctionnaires, je le cite, la pression des concours et des examens, ajouta ceci, l'autre jour, je m'amusais à regarder les programmes du concours d'attaché d'administration. Un sadique ou un imbécile avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle. Cette exclamation fit grand bruit et elle suscita beaucoup d'ironie, de chagrin parfois, parmi le monde universitaire et bien au-delà. L'épisode redonna des couleurs au roman de Madame de Lafayette, alors que sa notoriété pouvait à certains paraître pâlie. L'œuvre fut beaucoup achetée en librairie pour la satisfaction des éditeurs. On l'inscrivit au concours d'entrée de l'École normale supérieure. Ce fut un beau printemps. Mais depuis, le temps a passé. Et avec un recul de bientôt 2 décennies, on s'interroge sur la portée durable de ce renouveau d'intérêt sous l'effet d'un propos incongru et retentissant. Fût-ce le déclic d'une curiosité durable nourrie de plus sérieux motifs? Ce roman d'une langue si pure, ce roman nourri des rituels de la cour, à la fois celle de Henri II et celle de Louis XIV, ce roman s'affirmant entre jansénisme et préciosité, peut-il toucher encore les esprits et les cœurs aujourd'hui? Selon quelle distanciation ou quelle connivence entre elle et nous? Je vais soumettre cette question à mon invité, Henriette Levillain, professeure émérite de littérature française à l'Université de Paris-Sorbonne, qui s'est attachée de longue date à Madame de Lafayette et à la princesse de Clèves avec une dilection particulière.
Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'il ne s'en doutait point. « Pour moi, madame, dit monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. « Je crois, dit madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. » « Je vous assure, madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. »« Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine, et il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. »
Henriette Levillain, bonjour.
Bonjour.
Dans le très précieux volume d'analyse de ce livre que vous avez donné il y a quelque temps, du livre de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, dont nous allons parler, vous avez choisi comme épigraphe un mot de Huysmans, le romancier de la fin du XIXe siècle, « mon Dieu, qu'il existe donc peu de livres que l'on puisse relire ». Vous allez nous le faire relire ce matin.
Avec plaisir.
Rappelez-nous ce que cette scène que nous venons d'entendre.
Alors, elle est tout au début du roman, ou presque au début du roman. La Mademoiselle de Chartres, puisqu'il s'agit d'elle tout au début du roman, vient avec sa mère à Paris, auprès de la cour. Et Madame de Chartres a l'intention de marier cette jeune femme, jeune fille d'ailleurs, puisqu'elle est très très jeune, elle doit avoir 16 ans, à un grand de ce monde.
Et stratégie matrimoniale.
Stratégie matrimoniale. C'est un peu une marieuse, d'ailleurs, Madame de Chartres. Moi, je n'ai pas beaucoup d'estime pour elle. Et elle rencontre donc le prince de Clèves, la rencontre chez un joaillier, et il est pris d'admiration pour cette jeune femme, l'admiration dont on a parlé, d'ailleurs, dans cette seconde scène de rencontre, qui est celle avec le prince de Nemours. Le prince de Clèves est pris d'admiration pour cette jeune femme, sans savoir qui c'est. Mais il brûle de savoir, on le lui dit, et là, il décide d'aller lui faire la cour, de la séduire, et éventuellement de l'épouser. Ils s'épousent l'un l'autre, le mariage est donc conclu, Madame de Chartres est contente, et à l'occasion d'un bal, dont on a lu un extrait, il y a une rencontre foudroyante entre Monsieur de Nemours et la princesse, la toute jeune mariée, qui est la princesse de Clèves. C'est toute cette aventure. Alors là, je vais aller en quelques phrases très rapides.
Hein. Vous dites quelque part que la trame du roman peut être résumée en quelques lignes. Alors je vous remercie.
Alors il faut que j'aille vite.
Non, je allez à votre rythme, mais avant que nous abordions à la personnalité de l'autrice elle-même.
Toute cette aventure malheureuse qui se déroule dans ce livre, à savoir qu'elle se refuse évidemment de s'avouer cet amour et ensuite de l'avouer à Monsieur de Nemours. Elle finit par l'avouer à son mari, le prince de Clèves, sans donner le nom de l'amant en question. Et quand je parle de l'amant, je veux dire au sens 17e du mot, hein, simplement celui qui aime et non pas celui qui couche. Et donc, elle se refuse tout ceci. Et lorsque elle aura avoué cet amour à Monsieur de Clèves, lui meurt d'amour, meurt de chagrin, et libérée, on pourrait imaginer qu'elle va évidemment devenir la maîtresse ou la femme de Monsieur de Nemours. Eh bien non, elle décide de lui refuser les avances qu'il lui fait et elle se retire au couvent.
Donc en somme, quelques scènes fondamentales, centrales, entre lesquelles il y a une sorte de rebond.
Oui, il y a des scènes fondamentales, mais il n'y a pas de scène d'intimité entre M. de Nemours et Mme de Clèves avant la mort de M. de Clèves. Ça, c'est très important, alors qu'il y a des conversations très, très intimes entre M. de Clèves, ou le prince de Clèves, et son épouse, où il lui fait part de son chagrin de voir qu'elle ne répond pas à son amour.
C'est là qu'il dit lui-même, « Vous êtes ma femme, je vous ai aimée comme ma maîtresse. » Alors ce livre, il faut que nous venions maintenant à sa genèse, à l'histoire de sa genèse, son apparition et en particulier de l'autrice. Je voudrais que vous restituiez pour nous la figure de Madame de Lafayette.
Madame de Lafayette est une précieuse, selon les expressions de l'époque. Elle s'est d'ailleurs, elle a dévoré les romans, les gros romans précieux, qui avaient 3000 pages quelquefois, de Clélie par exemple. Elle a adoré La Carte tendre, elle connaissait absolument par cœur.
Le Milieu Scudéry.
Le Milieu Scudéry, exactement. Ou la marquise de Rambouillet, mais qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle vivait avec son mari, Monsieur de Lafayette, en province. Et donc, elle en souffrait beaucoup d'être écartée de la cour, et elle faisait envoyer, je ne sais pas si c'est par Amazon, mais ça, en tout cas, elle faisait envoyer des gros romans précieux. Dès qu'on en publiait des morceaux, elle les demandait, et elle était passionnée de cela. Bizarrement, Madame de Lafayette est la même qui va écrire sous l'anonymat un roman très court, qui est celui de La Princesse de Clèves. Ce n'est pas son premier. Elle a déjà d'abord écrit La Princesse de Montpensier, qui est un très, très beau petit livre, une nouvelle, vraiment très courte. Mais elle va aller plus loin en profondeur avec La Princesse de Clèves. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'entre-temps, entre La Princesse de Montpensier et La Princesse de Clèves, elle est entrée davantage à la cour parce qu'elle est devenue, sans avoir un rôle officiel, la très proche de Henriette d'Angleterre, qui était l'épouse du frère du roi. Et elle connaissait la préciosité de cette femme, sa beauté, mais aussi les faveurs qu'elle donnait aux amants qu'elle avait, alors que son mari en avait évidemment énormément de son côté, de maîtresse. Donc, elle connaissait cette vie dissolue qu'elle avait, ou dissolue en tout cas légère qu'elle avait, jusqu'au moment tragique où elle meurt, et elle assiste à cette mort, comme la mort était publique à l'époque, elle assiste à cette mort.
On se rappelle Bossuet, Madame se meurt, Madame est morte.
C'est pour elle.
Au premier bruit d'un mal si étrange.
Exactement.
La cour.
Exactement, et ça a ébranlé toute la cour, parce qu'elle n'avait que 26 ans, et que l'on a soupçonné qu'elle était empoisonnée, alors qu'on sait maintenant qu'elle est morte d'une péritonite, qui n'avait pas été diagnostiquée à temps. Donc elle est morte dans des douleurs atroces, on peut imaginer ce que c'est que de mourir à l'époque d'une péritonite. Et donc elle assiste à cela, et sur son lit de mort, elle vit une vraie conversion. D'ailleurs, Bossuet vient la voir sur son lit de mort, vient lui rendre visite sur son lit de mort, et elle vit une véritable conversion, ce qui a bouleversé Madame de Lafayette. Lorsqu'elle a terminé d'écrire ce livre qui s'appellera « La vie de la princesse Henriette d'Angleterre », elle ne peut plus rien écrire d'autre sur elle, tellement elle est paralysée par le chagrin. Et c'est important de le savoir parce que La princesse de Clèves, son roman à elle, vit à l'ombre de la mort. Hein. La mort de Madame de Chartres, qui est bouleversante, pour la princesse de Clèves, pour Mademoiselle de Chartres devenue la princesse de Clèves.
Puis son mari.
Et la mort de son mari, et la mort du prince de Clèves, qui sont certainement d'ailleurs les ombres qui rôdent autour d'elle et qui expliquent en partie sa décision finale.
Est-ce que l'histoire de son enfance et de sa jeunesse ne sont pas aussi un peu à l'origine de tout cela? On peut peut-être rappeler comment elle a émergé, d'où elle venait. Son père, qui était de petite noblesse, mort tôt alors qu'elle l'adorait. Il y a quelque chose, en effet, d'un peu funèbre.
De sombre dans son enfance, effectivement, de reculer aussi par rapport à l'aristocratie en place, qui l'amène effectivement, sans doute, se projeter sur une vie meilleure. Il y a aussi un autre fait, c'est qu'elle est constamment malade. Hein. C'est une femme qui a, on dirait aujourd'hui, je crois, dépressive, hein, d'après ce que j'ai compris de la biographie de Roger Duchesne, qui est très belle d'ailleurs. Et je pense que ce côté un peu souffreteux que Madame de Sévigné, d'ailleurs sa grande amie, hein, remarque chez elle, explique un peu ces douleurs de la princesse de Clèves qui passe son temps à trouver comme excuse qu'elle a besoin d'aller à la campagne.
Alors ce va-et-vient Paris-campagne est important aussi parce qu'elle se sent exilée quand elle se trouve,
exactement,
par exemple en Auvergne. Où
exactement.
La plus hâte, c'est de revenir dans l'ambiance spécifique de la cour et des salons.
Exactement. Quand elle épouse Monsieur de Lafayette, effectivement, elle se sent tout à fait exilée. Elle n'aime pas la campagne, bien qu'elle aime son jardin et ses fleurs. Elle en parle, paraît-il, à Madame de Sévigné, mais elle n'aime pas la campagne. et en même temps, elle a besoin constamment de se retirer ailleurs. Donc, c'est cette alternance qui est l'alternance fondamentale du livre qu'elle écrira.
Lorsqu'elle perd son grand ami, qui est La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, Madame de Sévigné, que vous évoquez, Henriette Levillain, écrit ceci. « Voyez comme Madame de Lafayette se trouve des amis de tous côtés et de toutes conditions. Elle a 100 bras, elle atteint partout. »
Oui, je pense qu'effectivement, il y avait chez elle de l'ambition. Moi, je pense qu'il y avait de l'ambition. Et son entrée à la cour n'était pas programmée. Elle n'était pas programmée. Elle n'était pas de la noblesse de sang par rapport à tous ceux qu'elle va rencontrer autour de Madame de Henriette d'Angleterre, par exemple. Et le fait qu'elle n'ait d'ailleurs pas eu une fonction officielle auprès de dames de compagnie, auprès de Henriette d'Angleterre, va être très désarmante pour elle lorsqu'elle sera morte, parce qu'elle se posera la question de savoir et moi, qu'est-ce que je deviens maintenant. Donc ce va-et-vient entre la province, la campagne, où elle dit qu'elle s'ennuie, hein, et Paris et la cour, est tout de même assez fragile, parce que elle n'est pas quand même reconnue comme une grande dame comme les autres, et elle cherche quand même à avoir un nom.
Alors, ce qui conduit directement à cette question de l'anonymat.
Voilà. Alors,
dont vous vous occupez beaucoup dans votre travail sur elle.
Bah, tout le monde s'en est occupé beaucoup depuis, alors qu'à l'époque, c'était, je dirais, coutumier que ces grandes femmes du monde qui écrivaient n'écrivaient pas forcément sous leur nom. Par exemple, Madame de Scudéry écrit sous le nom de son frère, Georges. Donc, elle n'écrit pas sous son nom. C'était une tradition que, évidemment, aujourd'hui, on a bien oublié, et heureusement, qu'on n'écrivait pas sous son nom quand on était une femme, surtout de l'aristocratie.
Mais avec toute une stratégie pour faire que, néanmoins, on sut que c'était...
Ah oui, alors, je vais simplement lire l'avis du libraire, parce que je trouve que c'est croustillant, ça. C'est Madame de Lafayette qui, bien entendu, l'a dicté. Hein.
Barbin. Le libraire, en fait.
L'avis du libraire au lecteur. Il, c'est-à-dire l'auteur, sait par expérience que l'on condamne quelquefois les ouvrages sur la médiocre opinion qu'on a de l'auteur. Et il sait aussi que la réputation de l'auteur donne souvent du prix aux ouvrages. Bon, c'est extrêmement intelligent, ça. C'est-à-dire que je ne suis évidemment pas du côté de ceux qui sont médiocres, hein, les ouvrages sur la médiocre opinion qu'on a de l'auteur, mais je ne voudrais pas non plus que ma réputation dans le monde, dans l'aristocratie, soit la raison pour laquelle on apprécie cet ouvrage. Donc, en fait, elle a quand même très très tôt, à l'époque, une intuition de l'indépendance de l'œuvre par rapport à l'auteur. Et ça, c'est très intelligent. C'est-à-dire qu'elle se dit, l'important, c'est que cet ouvrage soit apprécié pour lui-même et non pas pour l'auteur.
Vous voyez là, donc, Henriette Levillain, la naissance d'un certain talent pour construire autour d'un livre une notoriété.
Exactement. Je pense qu'elle a conscience que la littérature vous dépasse. Et que si elle était, comme c'est une littérature qui est lue évidemment dans un milieu très très étroit et très ciblé, si elle est lue avec son nom dans ce milieu-là, on va évidemment immédiatement considérer que c'est une autobiographie, ou qu'en tout cas on peut repérer toutes les clés de sa vie. Or, elle considère que non, l'œuvre vous dépasse, l'œuvre se détache de vous. Et je dirais qu'il y a quelque chose de presque proustien déjà à l'origine, hein, dans cette idée.
Alors venons-en plus directement à l'œuvre elle-même, et je voudrais vous faire entendre une seconde citation, due toujours, comme la première, à Moni Dalmès. C'est un extrait de L'heure de culture française de Germaine Beaumont, le 16 mai 1957, avec un phrasé qui est peut-être d'ailleurs un peu loin de nous déjà. Mais enfin, écoutez la scène de cet aveu à son mari, qui a beaucoup provoqué de débats et de discussions dans le monde qui a accueilli cet ouvrage.
Je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour, et je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je vous demande mille pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore, si vous pouvez. » Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur. Et l'embrassant, en la relevant, « Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne. Et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elle dure encore. » Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte?
Vous dites quelque part, Henriette Levillain, que vous êtes frappée par le fait que Clèves, le prince de Clèves, a plus de consistance psychologique que Nemours.
C'est absolument exact. Et je trouve que si cet aveu est tragique, c'est précisément parce qu'il a une consistance que Nemours n'a pas. Sa réaction, par exemple, c'est la réaction d'un homme non pas jaloux tout de suite, mais d'abord profondément malheureux, profondément déçu, parce qu'en fait, la naïveté, par certains côtés, de M. de Clèves était de penser que cette jeune épouse finirait par céder devant ses insistances, sa patience, ses désirs, et qu'il arriverait à la convaincre, je dirais, sentimentalement et intellectuellement, de la sincérité de son amour. La profondeur de la déception va petit à petit, évidemment, l'amener d'abord à réagir virilement, à savoir « je veux connaître le nom de mon rival », et selon la tradition de l'époque, évidemment, d'essayer de l'annuler. On part en duel, hein, encore chez Tolstoï, dans La guerre et paix. Hein, Pierre part en guerre contre, évidemment, l'amant de son épouse Hélène. Donc, je pense que cette grande tradition chevaleresque, évidemment, elle lui est enlevée par le fait qu'elle ne dit pas le nom. Mais en même temps, je trouve que cet aveu est tragique parce qu'elle se trompe complètement en pensant qu'elle va se libérer en avouant. C'est pire que tout. Et lui, finalement, n'aura pas le bout de l'information qu'il croit absolument nécessaire à un mari trompé.
Le fond des choses, c'est que, comme le dit l'autrice, le prince de Clèves est l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage.
Ça, c'est vraiment splendide. Et je pense que et la mort de Madame de Chartres, mais peut-être qu'on y reviendra, et la mort du prince de Clèves sont les deux poids sur sa conscience qui l'inhibent totalement au moment où, effectivement, elle est libérée et où elle pourrait partir avec Monsieur de Nemours et épouser Monsieur de Nemours.
Ça, c'est déjà la fin. Pour l'heure, je suis frappé par le thème du secret, le refus de parler, de donner le nom de Nemours. Vous montrez très bien que le mutisme que l'on s'impose en conservant le secret est moins important que la complicité qui naît entre ceux qui le partagent.
L'ambiguïté de ce rituel de l'aveu, à mon avis, saute aux yeux si on sait quelle est l'importance du rituel de la confession que Madame de Clèves, évidemment, connaît parfaitement et Madame de Lafayette derrière. Hein. Dans le rituel catholique de la confession, qui est vraiment propre à la religion catholique, on ne donne pas le nom à celui auprès duquel on se confesse. Et surtout, le confesseur n'est pas l'intéressé dans l'affaire. Il est simplement un médiateur entre, évidemment, le Christ et la personne. Donc là, l'ambiguïté qui est d'ailleurs, la tromperie, la trahison de ce rituel, c'est que Monsieur de Clèves est pris pour un confesseur alors qu'il est évidemment le mari trompé.
C'est là qu'on se trouve à mi-chemin entre les jésuites et les jansénistes qui, les uns et les autres, réfléchissent à la question de l'action par rapport à la moralité.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que, pour revenir au discours de Madame de Chartres, sa mère, qui est une janséniste, vraiment une janséniste, on trahit par intention, pas simplement par action, mais par intention. C'est pour ça qu'elle essaye constamment, Madame de Clèves, d'être sur ses gardes, de ne pas laisser évidemment Monsieur de Nemours penser qu'elle va trahir Monsieur de Clèves. Mais c'est aussi pour cela qu'à la fin, elle fait bien cette distinction entre l'intention et l'action. Et elle considère qu'elle n'a pas trahi Monsieur de Clèves puisqu'elle n'est pas allée jusqu'à l'action, l'acte.
Avant d'en venir à ce final mystère aux yeux même des contemporains, pourquoi n'a-t-elle pas voulu, veuve, finalement aller jusqu'au bout de son désir pour Nemours? C'est à ce point qu'on peut évoquer, je pense, une autre scène fameuse, celle où Nemours, espionné lui-même par Monsieur de Clèves, Nemours va à la campagne pour tâcher de saisir une vision de Madame de Clèves.
Oui, il prend tous les prétextes, puisque sa sœur habite pas très loin, donc évidemment il va habiter chez sa sœur. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est espionné effectivement par un écuyer de Monsieur de Clèves. C'est une scène théâtrale qui pourrait tourner à la Comédie d'ailleurs, tellement c'est bien monté. C'est le soir, il fait chaud, c'est l'été, Madame de Clèves est un peu déshabillée et elle contemple toutes sortes de symboles qui sont évidemment représentatifs de Monsieur de Nemours.
Y compris la couleur jaune qui est celle que portait Monsieur de Nemours dans un tournoi récent.
Sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet, toutes les fenêtres en était ouverte, et en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule. Mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns, et Monsieur de Nemours remarqua que c'était des mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps, et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise, sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à Monsieur de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de Metz où était le portrait de Monsieur de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner.
Vous mettez en lumière, dans vos analyses de la princesse de Clèves, Henriette Levillain, vous mettez en lumière le rôle des portraits, le reflet, l'image. Il y en a au moins deux qui sont essentiels dans l'intrigue.
Oui, il y a son portrait à elle, et effectivement le portrait de Nemours dans la scène que l'on vient de lire. Alors, son portrait à elle, il est volé par Monsieur de Nemours sous son regard à elle. Donc, évidemment, elle a compris que là, il y avait, une trahison de l'intimité dans laquelle elle veut absolument rester. Et elle a déjà un peu peur que la cour, dont Madame la Dauphine est le membre le plus important, s'en rende compte. Donc, en fait, après, évidemment, l'émotion qu'elle a, elle va la retenir. Et ça, c'est constamment ces alternances entre émotion et retenue que l'on ressent dans ce roman et dans la syntaxe même. Et la seconde scène, qui est magnifique, qui est d'une d'une sensualité absolument extraordinaire pour l'époque, hein, malgré des mots très très pudiques. Hein, personne, évidemment, ne va chercher les symboles qu'il y a derrière la canne ou le déshabillé de Madame de Clèves à l'époque. Mais on sent qu'il y a une sensualité magnifique.
Freud, alors Freud reste dans le coin.
Oui, absolument. Et les psychanalystes de base vont évidemment la décrypter très facilement. Mais ce qui est plus intéressant que cela, c'est la manière dont justement l'amant reste à distance par ce regard et en même temps, je dirais, une sorte de trahison de l'intimité dont Madame de Clèves est jalouse. Elle veut absolument garder cela dans le secret de son cœur.
L'éternel secret.
Éternel secret.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Et mais vous dites en même temps qu'aujourd'hui, passé, présent, la place de l'amour sexuel aurait mis en retrait l'imagination de l'amour. Vous tenez cette formule ?
Alors, ce qui m'amuse dans cette formule, d'abord, elle appartient à un livre que j'ai écrit il y a déjà au moins 10 ans, donc peut-être qu'elle est déjà démodée. Ce qui m'amuse, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau mot qui avait été inventé par les ados, qui s'appelle le crush. C'est le béguin. Bon, le béguin, c'est-à-dire le premier coup de foudre.
Crush, c'est un mot anglais ou j'écris ça crush, C-R-O-C-H ?
C-R-U-S-H.
Je m'en doutais.
Le béguin que l'on peut avoir pour quelqu'un, mais qui ne reste béguin qu'à condition qu'il ne le sache pas. Qu'éventuellement, on peut le dire à un bon copain, une bonne copine, mais pas à lui. Et inversement, hein, le garçon peut avoir un crush pour une fille. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un béguin ou une béguine à l'époque, mais en tout cas, c'est ce qui, paraît-il, commence à sourdre chez les ados, à savoir cette idée, au fond, que ce qui est plus important que l'amour explicite, ce sont tous ces signes souterrains qu'il faut deviner pour savoir si vraiment l'autre est également acteur, si réciproquement il y a de l'autre côté amour.
Toujours le mutisme comme ressort de la passion.
Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très amusant.
Eh bien voilà une concordance des temps à laquelle on ne s'attendait pas forcément, Henriette Levillain.
Croche,
oui. Un autre aspect de la princesse de Clèves qui a beaucoup suscité de commentaires parmi les contemporains, c'est la question de ses liens avec l'histoire. Elle appelle ce livre « mémoire » plutôt que « roman ». Et elle se réfère à la période d'Henri II, environ un siècle auparavant. Quelle relation avec ce qui fut, avec l'histoire ? Cela a été beaucoup débattu précisément par ceux qui l'ont critiqué ou ceux qui l'ont soutenu dans ce petit mouvement circulaire de réaction au livre.
Bon, ce que l'on peut quand même constater, c'est qu'elle a choisi une année du règne de Henri II, qui est une année de paix. Bon, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas à la guerre, ce qui était le cas constamment, et sont libres, donc évidemment, passent leur vie d'une façon, je dirais, qui nous paraît, nous, un peu futile, à aller chez les uns, chez les autres, à bavarder, à ragoter, à être des galants, puisque la première phrase du roman évoque la beauté de la galanterie de l'époque, dont être des galants, et cela donne un peu ce sentiment très superficiel que à l'époque on ne travaillait pas et qu'on ne faisait que, évidemment, vivre de galanterie.
Lisez-nous donc la première phrase, l'incipit, s'il vous plaît, Henriette Levillain.
La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. On est dans un univers, évidemment, qui peut être considéré comme l'univers de rêve ou l'univers de la futilité totale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle ne s'attarde pas beaucoup sur les ressorts de l'histoire, mais simplement sur les événements qui ont lieu à la cour. Donc, évidemment, ce qui se passe dans le salon de Madame la Dauphine, où entre et sort tous ces personnages que nous allons voir, et sur les rumeurs autour de la galanterie que l'on se rapporte les uns les autres. Et c'est ce que, d'ailleurs, Madame de Clèves va redouter, hein, cette société de rumeurs, de médisances, de mensonges aussi.
La réputation restant au centre des préoccupations des uns et des autres.
Voilà, la réputation restant effectivement extrêmement importante. Et elle va progressivement d'ailleurs tellement s'en méfier qu'elle va s'enfermer un peu dans son histoire privée, dans son histoire personnelle. D'abord vis-à-vis de sa mère, Madame de Chartres, qui lui avait demandé de tout lui dire, de tout lui dire. Et elle ne va pas évoquer le nom de son amant, au sens 17e siècle du mot, à Madame de Chartres, qui va en être tellement malheureuse parce qu'elle a le sentiment qu'elle a perdu la confiance de sa fille, qu'elle en meurt.
Ça n'est pas arrivé à Madame de Sévigné avec Madame de Grignan, même si les relations ont été également importantes.
Difficile.
Nous l'évoquions dans une émission antérieure.
Oui, absolument. Donc, elle va garder pour elle l'important, évidemment, qui est son secret. Et c'est cette idée que si jamais le secret était partagé, à ce moment-là, évidemment, l'amour serait trahi. Et ça, je trouve que c'est très, très beau, d'ailleurs, dans son développement de la conscience de l'amour. Bon, quant à l'histoire, à part, évidemment, je dirais la vie de cour, les personnages et les noms, il y a beaucoup de dropping names au début, d'ailleurs, du roman, qui ralentissent un peu le début. Également le duel et la mort de Henri II, qui est un événement qui termine, je crois, la deuxième partie et qui est un événement tragique.
La fameuse lance qui lui a percé l'œil.
Oui.
Un tournoi, oui.
Oui, absolument. Il n'y a pas d'événement. Et ce n'est pas un roman historique comme on l'appellerait aujourd'hui.
Nous allons clore, Henriette Le Vilain, cette suite de citations de la princesse de Clèves par la fameuse scène de la séparation qui a tant fait parler à l'époque et depuis. Pourquoi finalement se refuse-t-elle, une fois qu'elle est veuve, à l'amour de Nemours? C'est encore une lecture de Monny Dalmès, mais cette fois avec Jean Yonel. Ils étaient tous les deux sociétaires de la Comédie-Française. Dans une émission de Robert Mallet et Pierre Cipriot, le 18 novembre 1952. Écoutons-les.
Ne craignez rien, madame. Personne ne sait que je suis ici et aucun hasard n'est à craindre. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi.
Puisque vous voulez que je vous parle, je le ferai avec une sincérité. J'ai vu l'attachement que vous avez eu pour moi et je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru.
Si vous l'avez vu, madame, est-il possible que vous n'en ayez point été touchée? Et oserais-je vous demander s'il n'a fait aucune impression dans votre cœur?
Mon devoir me défend de penser jamais à personne, et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde, pour des raisons qui vous sont inconnues.
Oh, madame, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bonheur?
Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont telles que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerons ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans des engagements éternels? Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme au monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'aurait subsisté que parce qu'il n'en aurait point trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance.
Oh, madame, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. Vous me faites trop d'injustice.
J'avoue que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez, et mon expérience me fait croire qu'il y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirais amoureux et aimé, et je ne me tromperai pas souvent. Attendez ce que le temps pourra faire. Monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer. Cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vu. Croyez que les sentiments que j'ai pour vous seront éternels et qu'ils subsisteront également quoi que je fasse. Adieu. Voici une conversation qui me fait honte.
Les obstacles ont fait votre constance. C'est un point important, Henriette Le Vilain.
Oui, c'est une scène, là, celle que l'on vient d'entendre, qui, même si madame la princesse de Clèves veut être explicative, reste tout de même extrêmement mystérieuse. Elle dit d'ailleurs elle-même à Monsieur de Nemours « pour des raisons inconnues de vous ».
Et de nous aussi. Ou bien vous les discernez, ces raisons?
On essaiera toujours de discerner pour essayer de résoudre, mais c'est insoluble. Ce qui est insoluble, c'est qu'elle a toutes les bonnes raisons de d'épouser Monsieur de Nemours. C'est évident, ça, tout le monde le savait, et les gens qui l'ont lu à l'époque le savaient. Et que si elle s'y refuse, c'est à la fois parce qu'elle se défie de Monsieur de Nemours, et ça, c'est évidemment lié à cette conversation qu'elle avait eue avec sa mère tout au début du roman, où elle le présente comme un, où elle présente Monsieur de Nemours comme un galant, qui est évidemment versatile et qui passe d'une femme à l'autre. Et la fameuse lettre qui l'a rendue, elle, totalement jalouse, qui a circulé d'une personne à l'autre et qui n'était pas écrite à M. de Nemours, mais au vidame de Chartres, mais dont elle a cru qu'elle était écrite à M. de Nemours, l'était par une femme. Bon, donc déjà, elle avait senti cette jalousie monter en elle vis-à-vis de M. de Nemours, et je pense qu'à ce moment-là, déjà, elle a commencé à sentir que la relation avec M. de Nemours était précaire. Plus fondamentalement, j'ai le sentiment que cette femme a une sorte de défiance vis-à-vis de la pérennité de l'amour. Et là, je pense qu'on est vraiment dans le jansénisme de l'époque et de sa mère, à savoir que les grandes passions ne durent jamais. Et donc, est-ce que c'est la versatilité de M. de Nemours ? Est-ce que c'est sa propre défiance vis-à-vis d'elle-même ?
La peur de sa douleur éventuelle quand la passion s'effacera.
Et la peur, effectivement, de mourir d'amour, comme M. de Clèves, finalement. Qu'est-ce qu'on a vu et qui est le plus tragique dans ce roman ? C'est la mort de Monsieur de Clèves. Hein. Ce n'est pas, évidemment, la défiance de Madame de Lafayette ou de Madame de Clèves vis-à-vis d'elle-même.
On rejoint là beaucoup des maximes de son cher La Rochefoucauld, auquel elle était si liée.
Absolument.
Il est de bon mariage, il n'en est pas de délicieux.
Donc, une fois qu'effectivement l'amour est, je dirais, un contrat devant l'Église, à ce moment-là, les maris deviennent frivoles, deviennent volages. Et c'est ça la loi de la cour. Mais plus profondément, je pense qu'elle pense que c'est la loi de l'amour.
Et voici les dernières phrases du roman. Elle passait, la princesse de Clèves, elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle, mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. La vie de Madame de Lafayette aussi a été assez courte. Elle est morte à 59 ans, en 1693.
Oui, ce qui est d'ailleurs étrange dans ce roman, c'est que cette fin malheureuse n'est en même temps pas une fin religieusement fructueuse. Elle rentre au couvent, certes, elle fait de belles actions de charité, certes, mais il n'y a aucun réalisme là-dedans. On ne sait absolument pas quel couvent, ce qu'elle y faisait et surtout quelles sont ses activités. Je dirais que c'est assez conventionnel, finalement, cette fin. Elle se retire et surtout, M. de Nemours est interdit de séjour.
Peut-être pourrait-on transférer vers le cas de la princesse de Clèves, la conclusion de la princesse de Montpensier, cette œuvre antérieure de Madame de Lafayette. C'est la fin de la nouvelle. Elle ne put résister à la douleur d'avoir perdu l'estime de son mari, le cœur de son amant et le plus parfait ami qui fut jamais. Elle mourut en peu de temps, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde et qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit ses actions. Vertu et prudence qui, si je vous suis bien, ont en revanche... guider la princesse de Clèves.
Oui, c'est là qu'on voit que c'est beaucoup plus tragique encore, la princesse de Clèves, parce qu'elle aura effectivement pris toutes les précautions pour ne pas tomber dans le piège, si j'ose dire, de l'amour-passion. Donc c'est bien plus tragique, c'est qu'en fait c'est la passion en elle-même qui est dangereuse, qui est vulnérable, mais pas simplement les personnes qui la vivent.
L'effort est constant pour l'esprit et pour l'intelligence de combattre la passion dans ses effets sombre.
On est dans une tension perpétuelle.
Je voudrais que nous terminions, Henriette Lévillain, notre conversation sur Madame de Lafayette et sur la princesse de Clèves en évoquant la postérité. Le sentiment s'impose qu'on a lu ce livre de façon très différente suivant les siècles qui ont suivi.
Bon, je dirais une chose d'abord, sans aller dans le sens de M. Sarkozy, toute simple, c'est que c'est un livre difficile pour nous, aujourd'hui. C'est un livre difficile, d'abord dans sa construction, cet avant-propos qui n'en finit pas sur la présentation de la cour, les nombreux récits enchâssés qui finalement mettent une espèce de frein à l'émotion que l'on ressent dans cette relation entre M. de Nemours, enfin à ce trio, Clèves, Nemours et Madame de Clèves. À chaque fois, on s'arrête, on recule et on vous raconte des histoires de femmes mal aimées, de trahison, de marivolage, qui ne font que, je dirais, répéter un peu ce que la crainte de Madame de Clèves. Je dirais que ce roman est difficile. La syntaxe est extrêmement difficile. C'est une syntaxe avec des imparfaits du subjonctif perpétuellement qui sont évidemment complètement absents de la conversation commune aujourd'hui.
Presque toujours, pas toujours.
Pas toujours. Enfin, il y a des... Je vous lis juste une toute petite phrase que j'ai remarquée comme étant une phrase quand même bien difficile. « L'on voudrait, dit M. Nemours, qu'elle, au pluriel, hein, qu'elle suce qu'il n'y a point de beauté, de quelque rang qu'elle pût être, que l'on ne regarda avec indifférence. » Je pense qu'il faut relire trois fois la phrase.
C'est... Vous vous portez vers l'extrême. Je n'accepterai pas que vous condamniez l'imparfait du subjonctif d'aucune façon à ce micro, Henriette Levillain. Le XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, comment a-t-il regardé ce roman? Il est devenu un peu étrange dans l'ambiance
des
Lumières.
Oui, mais il a quand même continué à être un roman de référence. Et jusqu'à notre époque, avec à mon avis d'ailleurs un peu de survol. C'est-à-dire que moi je me rappelle que quand nous étions au lycée, nous lisions par extrait. Et au fond, c'était une bonne chose. Et on avait effectivement des séquences, comme on a entendu tout à l'heure d'ailleurs, hein, des séquences qui étaient lues et que nous lisions et nous commentions. Mais dans la continuité, ce roman est difficile à lire. En revanche, moi, je trouve qu'il nous touche encore beaucoup parce que, au cœur de ce roman, il y a cette idée que la passion est un moment de la vie, mais qu'il est rarement durable, s'il est d'ailleurs jamais durable. Et que cette idée pessimiste qu'elle a, qu'il ne faut mieux pas s'engager parce que la passion ne durera pas, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a en tête quand on rencontre quelqu'un que l'on pense être au-dessus de tout.
Tout le monde, je m'en remets à la réaction de nos auditrices et de nos auditeurs. Et avant que nous terminions notre conversation, revenons à cet épisode, ce magnifique coup de publicité que Nicolas Sarkozy a proposé pour l'œuvre, puisque lorsque, à deux reprises, il a ironisé sur l'intérêt qu'on pouvait porter à ce livre, il a provoqué une hausse marquée des ventes, notamment, et des réactions diverses. Écoutez donc cette archive qui évoque à la fois le Panthéon, l'École normale supérieure, le bassin des Ernestes, vous savez, qui est au centre rue d'Ulm avec les poissons qui portent le nom d'un ancien directeur. Écoutez cette réaction militante qu'on a connue à l'époque.
Dans un parcours au mérite, ça doit donner des points de plus à celui qui a fait du bénévolat pour les autres. Quand même, je veux dire, en termes de richesse humaine, d'engagement au service des autres, pourquoi on n'en tiendrait pas compte? Ça vaut autant que de savoir par cœur la princesse de Clèves. Enfin, j'ai rien contre. Parce que j'avais beaucoup souffert sur elle.
La princesse de Clèves, tome 1er. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France.
À tour de rôle, chacun lit 5 minutes du roman de Madame de Lafayette. Pour Sophie Rabault, enseignante chercheuse en lettres, c'est une réponse à Nicolas Sarkozy.
Nous avons voulu dire que ce texte est complexe, mais que c'est grâce à la complexité que l'on peut ensuite argumenter, débattre et être en démocratie.
Laure de Préteau est étudiante, elle est venue lire un passage.
Pour moi, c'était important qu'on fasse quelque chose hors les murs, qu'il soit ouvert à tout le monde. Et puis voilà, c'est un très beau texte, donc je suis contente qu'on puisse le lire. Vu qu'il est devenu le symbole de la recherche inutile, ça me semble important que ce soit ce texte-là qu'on ait choisi.
Ce prince était galant, bien fait et amoureux.
Allez, pêche à la princesse de Clèves dans le bassin. Qui n'a pas sa canne à pêche? Qui n'a pas sa canne à pêche?
Là, on a un certain nombre de textes extraits de la princesse de Clèves qu'on a mis dans le bassin aux Ernestes, donc le bassin qui est au centre de la cour d'honneur de l'École normale supérieure. Et pourquoi la princesse de Clèves? Parce que on a certaines déclarations du président Sarkozy qui témoignent d'un mépris absolu pour ce texte en l'occurrence. Un texte qui est quand même l'un des textes fondateurs du roman français. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. Donc voilà, ces textes qui sont en train de couler au fond du bassin, on essaye de les repêcher. Et donc pour organiser ça, on a une princesse de Clèves qui est juste là et moi-même le duc de Nemours. Donc deux personnages
habillés en costume d'époque.
Bien entendu.
Je vous voyais sourire, Henriette Levillain, en écoutant.
Je trouve ça très sympathique. Très, très sympathique. Et effectivement, ça a ressuscité la princesse de Clèves, hein, ce propos du président Sarkozy. Et je me rappelle un moment merveilleux aux deux ânes, où il y avait Sarkozy et Cécilia qui étaient dans un spa et ils étaient tous les deux en peignoir blanc.
Les deux ânes, c'est un lieu de chansonnier.
Absolument. Elle, sur un transat, en peignoir blanc, avec des lunettes noires, lisait un livre. Et lui, agité, se levait, se rasseyait, n'en pouvait plus. Il lui dit, mais à la fin, qu'est-ce que tu lis? Et elle dit, la princesse de Clèves.
Et un demi-siècle avant la controverse autour des propos de Nicolas Sarkozy, Jean Delannoy avait donné un film consacré à la princesse de Clèves. C'est en 1961, avec Jean Marais et Marina Vladi sur un scénario de Jean Cocteau.
Un film un peu glacé d'ailleurs, je trouve. Un film un peu glacé. Et c'est je pense, pour un metteur en scène, une chose extrêmement difficile dans la mesure où il n'y a jamais de description des personnages. Finalement, elle est très belle, elle est super belle, superlatif de belle, mais on ne saura jamais qui elle est. Et je ne sais pas pourquoi on associe justement le côté glacé du siècle classique à ce roman. C'est une erreur. C'est un livre qui est au contraire brûlant, brûlant.
On a vu apparaître aussi un film de Christophe Honoré qui avait été remarqué en 2008, La belle personne, avec Léa Seydoux, avec Louis Garrel, etc. Et puis un documentaire intéressant qui montrait comment une classe d'un lycée du quartier nord de Marseille s'emparait de la princesse de Clèves.
Moi, j'avais trouvé ce documentaire épatant. D'abord, j'avais admiré cette jeune professeure, puisqu'elle était arrivée à faire lire, effectivement, à toute une population totalement défavorisée, un livre dont la syntaxe est tout de même très précieuse. Et ce qui était très joli de sa part, c'est que ce professeur avait eu l'intention que ses enfants, ses jeunes, ses ados plutôt, aillent parler de cela à leurs parents chez eux. Et ils étaient filmés, donc, écoutant la manière dont ces jeunes racontaient la princesse de Clèves. Et je me rappelle encore de la réaction d'un père, et qui était effroyablement choqué, parce que la princesse de Clèves était amoureuse d'un autre homme que son mari et était tentée, évidemment. Et lui disait, ben non, pas du tout, il ne faut pas du tout écouter les sirènes qui vous parlent à l'extérieur de votre couple, ce n'est pas possible, ça.
Donc, limite au rayonnement universel de ce livre dont nous avons parlé ce matin, Henriette Levillain, c'est-à-dire cette princesse de Clèves à qui vous avez consacré tant d'attention et tant de sagacité. Vous avez, je l'ai dit, consacré à la princesse de Clèves de Madame de Lafayette un précieux ouvrage à la fois raffiné et sagace qui a été publié chez Gallimard en 1995 et réédité en 2010. Et on me dit qu'il est épuisé. Alors je fais un appel ardent à l'éditeur pour qu'il le redonne à connaître à nos nombreux auditeurs, à nos nombreuses auditrices qui en seront désormais gourmands. Je vous ai reçu naguère pour parler de Saint-Jean-Perse et de Marguerite Yourcenar, deux grands auteurs auxquels vous avez consacré des biographies remarquées. Vous vous êtes attaché aussi à Virginia Woolf, et puis vous avez consacré tout récemment un livre à Catherine Mansfield, « Restez vivante à tout prix », paru chez Flammarion. Et je tiens à souligner que cet ouvrage est finaliste du Goncourt de la biographie. Pourquoi d'ailleurs Catherine Mansfield?
C'est l'histoire des poupées russes. C'est-à-dire que je suis allée de Yourcenar à Virginia Woolf parce que Yourcenar a traduit Virginia Woolf et l'a beaucoup, beaucoup appréciée quand elle l'a rencontrée. Et puis en étudiant Virginia Woolf et en m'occupant de Virginia Woolf, je me suis rendu compte que Catherine Mansfield avait eu un rôle majeur dans la littérature, puisqu'elle avait détourné Virginia Woolf de son roman très traditionnel qu'elle avait écrit au début. Et c'est sans doute à cause de Catherine Mansfield qu'elle est devenue Virginia Woolf, c'est-à-dire qu'elle a écrit des romans de la conscience intérieure.
Sa notoriété est moindre aujourd'hui, notamment en France, que celle de Virginia Woolf.
Bien entendu, bien entendu.
En tout cas, avant votre livre.
Non, mais bien entendu, parce qu'en fait, d'abord, elle a une œuvre mince, puisqu'elle est morte très très jeune hein, de tuberculose, elle a une œuvre mince, elle n'a écrit que des nouvelles, et la nouvelle, en France, n'a pas bonne presse. Voilà. Elle l'aura peut-être un jour, j'espère, mais elle n'a pas pour l'instant bonne presse.
C'est d'ailleurs un mystère que vous nous expliquerez un jour, pourquoi la nouvelle est si populaire dans les pays anglo-saxons ici.
Et en Amérique latine.
Rejetée le plus souvent dans notre France. On ne peut pas clore une émission consacrée à Madame de Lafayette et à la princesse de Clèves sans honorer le nom de Roger Duchesne, qui est à la fois édité Madame de Sévigné et Madame de Lafayette dans la bibliothèque de la Pléiade, et qui est l'auteur d'une biographie majeure.
Majeure, absolument. Vraiment intéressante, parce qu'en plus, il laisse planer le mystère. C'est ça que j'aime bien dans sa biographie.
Fayard, 1988. Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète, elle est riche, sur la princesse de Clèves, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée aujourd'hui par Cassandre Puel, avec à la prise de son Virginie Lorda, avec à la discothèque Keating Wang, avec Emmanuel Lucioni pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Noémie Boncourt pour la documentation. Cette absence devant précipiter.